Ensuite, Sylvie Goyer, elle travaille à l'Université de Montréal depuis 1974. Et sa participation comme déléguée syndicale l'a rapidement amenée à siéger à plusieurs comités. Et en 1991, elle est devenue présidente de la section locale 1244. Une fois son mandat en tant que présidente terminé, Sylvie s'est jointe au comité de l'équité salariale. Et pendant plus de 10 ans, elle était la personne ressource sur la question de l'équité salariale. Un sujet dont elle nous parlera aujourd'hui. C'était une lutte des droits de la personne très longue pour avoir gain de cause. Alors, depuis que ce dossier était résolu, et elle va vous expliquer le pourquoi de la chose, etc., Sylvie demeure active au sein du comité de l'équité salariale de sa section locale, 1244, et elle est à la recherche de d'autres réalisations en vertu de la loi québécoise. Elle a 3 fistons et elle est montréalaise. Alors, sans plus de préambule, je lui passe le micro. Sylvie, à toi.
Bonjour. Merci d'être venue si nombreuse et de nous accueillir ce matin. D'abord, peut-être pour commencer, corriger, j'ai 3 fistons. Ils sont plutôt grands, les fistons. Je travaille à l'université depuis 1974. Je les ai eus jeunes, là, mais quand même. Le plus jeune a 25 ans, fait que le plus vieux 29, fait que ça fait un petit peu moins fiston. Ceci dit, dans ma vie, j'ai eu plusieurs défis, dont celui d'élever des garçons, puis de leur dire qu'il fallait qu'il y ait une justice entre les hommes et les femmes. Je pense que c'était peut-être le plus grand défi de ma vie, incluant, par contre, le dossier d'équité salariale. Mes garçons, ils n'en peuvent plus d'entendre parler d'équité salariale. Jamais ils oseront faire de la discrimination, je pense. En tout cas, ils ne me le diront pas si ça leur arrive, puis ils vont être bien gênés. Alors, tout ça pour vous dire que le dossier de l'équité salariale à l'Université de Montréal, ça a commencé un peu comme partout là, dans les années 90. C'est là qu'on s'est mis à constater qu'en fait, tous les emplois féminins pour lesquels on demandait de la compassion, de l'écoute, prendre soin d'eux, bien, c'était moins payé que les emplois de gars qui, eux autres, utilisaient des outils, puis ils avaient des gros bras, puis ils transportaient des grosses boîtes. C'est là qu'on a constaté la différence, puis dans tout le mouvement syndical, on s'est dit, il faut que ça cesse, l'équité, c'est un droit fondamental, c'est pas un caprice, c'est pas un cadeau, c'est pas une gâterie, c'est un droit. Donc, un peu naïve, j'arrive dans les instances syndicales et tout de suite, je plonge dans le chaudron de l'équité salariale pour m'apercevoir que c'était pas trop compliqué de constater à quel point dans les systèmes de rémunération puis dans la manière d'être des employeurs, on maintenait, non seulement il y avait la discrimination, mais on la maintenait puis on l'encourageait. Quand on a commencé à discuter de ce dossier-là, la première rencontre avec le représentant de l'employeur, il nous a dit « Inquiétez-vous pas, mesdames, on va régler ça. On va tenir compte que les secrétaires, ça joue avec des ordinateurs. » Là, on a dit « Oh, ça va pas. » Non seulement on jouait avec des ordinateurs, mais il pensait qu'il réglerait ça vite puis qu'il nous ferait un beau cadeau de Noël. Alors, vitement, on s'aperçoit que ça n'a pas de bon sens, puis que ça ne peut pas continuer comme ça, puis qu'on n'a pas besoin d'avoir un baccalauréat, une maîtrise, puis un doctorat pour se rendre compte que ça ne va pas. D'autant plus qu'on est dans une université. Alors, quand les travailleuses se mettent à donner des leçons d'équité salariale aux éminents professeurs de l'université, il y a un problème aussi. Bref, tous les membres, je pense, de la section locale du 1244, on est à peu près 2000 membres. On a représenté bon an, mal an les emplois des groupes bureaux, donc tous les emplois secrétaires, même dans les bibliothèques, les techniciens en documentation, dans les laboratoires, les gens des cafétérias. On a un vaste éventail d'emplois qui sont à majorité occupés par des femmes. Dans ces emplois-là, il y a aussi des hommes comme de raison. Il y a des hommes en laboratoire, il y a des hommes en bibliothèque, il y en a au cafétéria, mais on représente majoritairement donc des emplois féminins. Quand on s'est mis à faire des petits calculs, à regarder quelle était la valeur des emplois féminins comparativement aux emplois masculins, puis à comparer les salaires, là, on a eu une méchante surprise. On s'est aperçu, puis ça, c'est pas compliqué, là, c'est pas très compliqué de faire les calculs, puis c'est surtout un argument irréfutable. On constatait que, bon an, mal an, il y avait à peu près 90 sous l'heure d'écart entre les emplois féminins et les emplois masculins. Alors, c'est là-dessus qu'on a planté le clou au fur et à mesure des années. Comme à l'époque, au Québec, n'existait pas, on parle des années 96, il y a eu une plainte de déposer à la Commission des droits de la personne. Il n'y avait pas de loi sur l'équité salariale encore en vigueur au Québec à ce moment-là. Donc, on a eu recours, l'université a contesté, tant qu'elle a pu, devant les différents tribunaux, la juridiction de la Commission des droits de la personne. Et on a gagné à chaque fois qu'il y a eu recours aux tribunaux pour contester la valeur, finalement, de notre plainte. On a gagné 4 fois. Différents comités, différentes instances, ça s'est rendu jusqu'à la cour d'appel. Ce qui fait que je pense que les membres du 1244 ont gardé toujours la volonté d'avancer. On a mené une campagne il n'y a pas longtemps qui s'appelait « Pas à pas, on l'aura ». Et c'est vraiment comme ça, je pense, qu'on a réussi à garder toutes les troupes ensemble parce que ça a été l'élément déterminant. On a fini par régler, une fois qu'on était rendu au tribunal des droits de la personne, les témoignages commencent, là, oh, l'université devient sérieuse, on s'assoit et on discute. Il faut dire qu'entre-temps, il y a eu des changements dans la direction parce que je suis profondément convaincue que régler les dossiers d'équité salariale, ça prend une volonté politique. On a vu qu'au gouvernement fédéral, en tout cas, M. Harper, il l'a pas, la volonté politique. Mais on ose croire qu'au sein de l'université, et ils nous ont vus partout. On a boycotté tout, on a distribué des tracts partout, on n'a pas arrêté pendant 10 ans. À chaque fois qu'il y avait un événement important, on était là pour réclamer notre droit à l'équité salariale. Ce qui fait que je pense qu'il y a eu des changements aussi dans la direction, puis ils ont peut-être fini par se rendre compte que il n'y a pas personne qui lâcherait ce dossier-là. On a même eu une grève en 2003 où le dossier d'équité salariale était quand même un enjeu principal. Ce qui fait que, en 2008, donc, l'université ayant épuisé tous les recours pour essayer de nous empêcher d'être entendus devant le tribunal des droits de la personne du Québec, on se met à discuter plus sérieusement. Je vais vous dire qu'on se pinçait, on dormait pas beaucoup, on se dit encore une fois, on va arriver au bord d'un règlement, puis pouf, tout va tomber. Et non, on y a cru, et on a trouvé, je pense, une manière originale de régler le dossier. Je vous dirais qu'on est allé chercher 15 millions pour 2000 personnes. De ce 15 millions-là, chaque personne ayant occupé une fonction féminine entre l'année 1996 et l'année 2001 a reçu 1 $ de l'heure pour chaque heure travaillée. En plus de ça, on avait constaté que dans les échelles salariales, c'était pas tout à fait équitable entre les hommes et les femmes. Je fais une illustration. Quand tu occupais un emploi masculin, ça, c'est l'échelle salariale. Quand tu occupais un emploi masculin, tu rentrais, puis youp, tu t'en allais direct en haut. Il n'y avait pas d'échelon. Les emplois féminins, eux autres, tu commences à, je ne sais pas moi, 15 piastres, l'année d'après, tu as 15 piastres et demi, puis l'année d'après, tu as 16 piastres. Ça fait que l'université a accepté aussi de payer toute la différence salariale pour toutes les personnes qui avaient été pénalisées et de mettre tout le monde au palier maximum. Ça coûtait beaucoup d'argent, mais on a obtenu ça aussi. Alors, les deux effets combinés, donc le 1 $ plus l'ajustement par rapport à la structure salariale, ça a coûté à l'université 15 millions de dollars. Et je dirais que notre victoire la plus importante là-dedans, d'abord, il y a des gens qui n'y croyaient plus. Malgré tout, ils nous suivaient, tu sais. Ils sont folles un peu, eux autres, en avant. Hein? Quand on expliquait ça, là, il fallait être un peu fou là, pour durer autant d'années, pour avoir su accrocher autant de monde au fil des années, parce que le personnel a changé. Il y a des gens qui sont partis, puis il y a des gens qui sont arrivés à l'université. On a même des gens qui sont à la retraite, il y a des gens même qui sont décédés, qui étaient là au début. Mais tout le temps, il y a eu une détermination. C'était pas vrai, on était pour pas lâché là-dedans. Il n'était pas question seulement de mettre ça de côté. Ça a été pendant des années la priorité de notre syndicat. Et ça, je pense que l'employeur le savait. On était préparés pour aller au tribunal là, n'importe quand. On avait un comité d'équité hors du commun. Pendant plusieurs années, il y a toujours eu du monde sur le comité, mais je pense que les dernières années ont été encore plus déterminantes. On a eu... Oh, il reste une minute. OK. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont passé au fil des années. On a eu des gens aussi du SCFP, Annick Desjardins, Dominique Delorme, qui nous ont appuyés tout au long, qui n'ont jamais douté. Quand même, on avait des collègues masculins qui disaient « sont un peu fêlés les filles en avant de vouloir à tout prix les quitter ». Alors, ça a été une très belle victoire, mais c'est pas fini. On continue parce qu'au Québec, il y a une loi sur l'équité salariale et qu'à partir de 2001, je vous ai dit tantôt, c'était réglé de 96 à 2001, 15 millions. Et à partir de 2001, on a recommencé une nouvelle démarche au sens de la loi sur l'équité salariale du Québec. Donc, ce n'est pas fini, mais ça avance bien. Du fait qu'on a eu une grande victoire, je pense que ça a changé un peu la dynamique là, employé-patron dans cette discussion-là. Et je souhaite à tout le monde de vivre une expérience de solidarité pareille. On a ri, on a pleuré, on n'a pas dormi, on a fait les folles. Il n'y a rien qu'on n'a pas eu comme émotion. Mais la plus belle, ça a été certainement quand on a présenté l'entente aux membres du 1244 qui nous ont fait un accueil extraordinaire. Et je vous souhaite chacune de vivre ça, puis surtout d'aller chercher des gains importants. C'est un gain de dignité, je pense, parce que c'est un droit fondamental, puis qu'on avait ras-le-bol de se faire traiter en inférieur vis-à-vis d'autres types d'emplois. Alors, merci. Merci.